Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour sa première émission du mois de février consacrée, comme depuis des années maintenant, à la promotion et à la défense des droits humains, ce qui est notre raison d'être. Et pour animer l'émission ce soir, alors il y a une personne que vous allez entendre au micro, qui est Mina.
Bonsoir et bonsoir à Claire Lise qui nous entend depuis sa chambre à Rouen.
Tout à fait. Tout à fait. Et Claire Lise, effectivement, qui a dû se faire hospitaliser, mais on a quelques nouvelles et apparemment tout va bien.
Oui, voilà. Je suis allée la voir dimanche, tout va bien.
Très bien. Et donc, il y a une personne que vous n'allez pas entendre, mais qui est venue effectivement nous soutenir et nous écouter, c'est Odile. Voilà. pas mal de sujets ce soir. On va vous parler, moi je vais commencer par vous dire quelques mots sur la Syrie et vous passer aussi un petit audio qu'on a récupéré sur le site d'Amnesty France. Donc www.amnesty.fr pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'appelle En Syrie, le retour des réfugiés. On va vous parler du projet de loi asile. On va vous parler d'enfants talibés. On va vous faire une demande d'action urgente qui concerne le Burundi et plein d'autres choses. Donc, ne quittez pas l'antenne avant la fin de l'émission, c'est-à-dire 20h, et même restez à l'antenne puisqu'après nous, il y a le laboratoire. Voilà. Donc, pour commencer, effectivement, vous avez tous entendu la catastrophe qui vient de se passer en Turquie et en Syrie, le tremblement de terre avec des milliers et des milliers de morts. Il ne rentre pas dans l'émission d'Amnesty International d'intervenir au niveau de l'aide d'urgence par rapport à ce genre d'événement, puisque c'est un événement dû à des causes naturelles, non pas que nous ne sommes pas touchés, bien évidemment que si, mais la mission d'Amnesty, c'est d'intervenir sur tout ce qui touche aux droits humains, uniquement. Donc ça ne rentre pas dans notre mission d'action. Mais moi, ça m'évoque toujours, effectivement, l'aide pour venir en aide aux populations qui ont été durement frappées dans des phénomènes naturels, tremblements de terre, inondations, etc., incendies ou autres. Ça me rappelle toujours le fait que, par rapport à ces phénomènes naturels, effectivement, malheureusement, nous, en tant qu'êtres humains, on ne peut pas faire grand-chose pour les éviter. Quand ils arrivent, ils arrivent. Par contre, il y a des catastrophes qui n'ont rien de naturel, mais qui sont parfaitement humaines, qui sont les actions de violence, les atteintes aux droits humains, les meurtres qui sont commis à droite et à gauche, et pire, effectivement, les guerres qui parsèment la planète. On parle toujours de la guerre en Ukraine, malheureusement, à l'heure actuelle, c'est pas la seule, même si on en parle beaucoup. Et ça, par contre, ce genre de massacres de populations et autres, on a tout à fait une action pour essayer de les prévenir, contrairement aux catastrophes naturelles. Donc ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il n'y ait pas plus de gens qui se mobilisent pour défendre les droits humains, parce que c'est la seule façon d'essayer d'éviter ce genre de catastrophes humaines et non pas naturelles qui nous arrivent régulièrement. Voilà. Donc je vous lis quand même le communiqué d'Amnesty, et après on va enchaîner donc sur cette petite audio dont je vous ai parlé tout à l'heure. Lundi 6 février au matin, un séisme dévastateur a foudroyé la Turquie et la Syrie. Nous exprimons toute notre solidarité aux milliers de familles endeuillées. Ce drame a notamment frappé le nord-est syrien, une zone qui faisait déjà face à une terrible crise humanitaire, meurtrie par des années de guerre. Permettre l'accès aux convois humanitaires est urgent. Lors du tremblement de terre du 6 février, des immeubles entiers se sont effondrés dans des quartiers du nord-ouest de la Syrie, déjà délabrés par des années de guerre. Cette destruction d'une telle ampleur, conjuguée à une crise économique aiguë et une violente tempête de neige, entrave l'acheminement de l'aide humanitaire. La communauté internationale doit immédiatement mobiliser des ressources afin de soutenir les efforts de sauvetage et de réhabilitation dans le nord de la Syrie. C'est la région d'Idlib, au nord-ouest de la Syrie, qui a été directement frappée par le séisme. Plus de 4000 personnes y vivent. Parmi elles, 4 millions pardon, de personnes y vivent. Parmi elles, plusieurs milliers de personnes déplacées d'autres régions de Syrie. En juillet 2022, notre organisation avait déjà documenté les conditions de vie extrêmement difficiles auxquelles elles étaient confrontées dans les camps, dépendant entièrement de l'aide humanitaire pour survivre. Cette zone échappe encore au contrôle du gouvernement de Bachar el-Assad. Depuis que le gouvernement syrien a perdu le contrôle de la partie nord-ouest du pays, il procède à des coupures d'électricité, de l'approvisionnement en eau, attaque des camps, des installations médicales et des écoles. Le gouvernement syrien et les forces russes qui se livrent toujours à des attaques indéterminées. Persécutions, détentions, tortures, violences sexuelles font partie des nombreux risques encourus par les réfugiés syriens lorsqu'ils rentrent dans leur pays. Le séisme survenu dans le nord-ouest de la Syrie rappelle que le conflit en Syrie a toujours cours dans cette région et montre l'isolement auquel est confrontée la population. Les autorités syriennes, appuyées par la Russie, entravent l'acheminement de l'aide humanitaire depuis plusieurs années. La Russie a opposé son veto au renouvellement du mécanisme d'aide humanitaire transfrontalier lors d'un vote au Conseil de sécurité de l'ONU. Malgré un premier veto russe, le Conseil de sécurité a prolongé à deux reprises le mécanisme transfrontalier. Le dernier vote remonte au 6 janvier 2023, autorisant l'acheminement de l'aide humanitaire vers la Syrie près de la frontière turque, jusqu'au 10 juillet. La résolution indique que l'autorisation concerne seulement un point de passage, celui de Bab el-Hawa. Cela fait des années que la population de cette zone vit dans la précarité et l'isolement, une situation aggravée par cette catastrophe naturelle. La communauté internationale doit immédiatement mobiliser des ressources afin de soutenir les efforts de sauvetage et de réhabilitation dans le nord de la Syrie. Le gouvernement syrien doit aussi permettre à l'aide humanitaire d'atteindre toutes les zones affectées par le tremblement de terre, sans restriction. L'ensemble des parties, en particulier le gouvernement syrien et les forces russes, doivent immédiatement cesser les attaques contre les civils et les infrastructures civiles, ainsi que les attaques menées sans discrimination dans la région. Donc voilà, et pour terminer cette petite chronique, effectivement, donc voici l'enregistrement publié sur le site d'Amnesty il y a quelques jours.
La guerre n'est pas finie en Syrie. Il y a l'histoire de cet homme qui est rentré de Jordanie avec sa famille. Il a été arrêté, il a été détenu pendant 6 mois et torturé. Et après ça, cet homme m'a dit, dans votre rapport, dites quelles sont les conditions, dites aux gens qu'il ne faut pas qu'ils rentrent. Certaines personnes pensent que la guerre est finie, alors que c'est faux, la guerre n'est pas finie en Syrie. Mais avec le gouvernement syrien qui a repris le contrôle de certaines zones, il y a cette idée erronée que les réfugiés peuvent rentrer, que la vie peut reprendre son cours. Et certains pays, des pays d'accueil de réfugiés, mais aussi les alliés du gouvernement syrien, poussent pour ces retours. Et donc nous, à Amnesty, on a voulu voir ce qui se passait vraiment quand les réfugiés rentraient. Est-ce qu'ils étaient en sécurité? Est-ce que leurs droits étaient respectés? Et est-ce que vraiment les conditions étaient réunies pour un retour? C'est la première fois qu'une organisation documente ce qu'il se passe pour les réfugiés qui rentrent en Syrie, les risques qu'ils encourent et les violations des droits humains auxquels ils sont soumis. Alors le rapport met en évidence plusieurs violations graves des droits humains. D'abord des détentions arbitraires ou illégales, des disparitions forcées. Et parmi ces disparitions forcées, il y a eu 5 cas de personnes qui sont mortes en prison. Il y a eu aussi des cas de torture et de mauvais traitements. Et enfin, de violences sexuelles et de viols. Ce qui est marquant dans ce rapport, d'abord, c'est qu'on a documenté 14 cas de violences sexuelles contre des hommes, des femmes, des enfants. C'est beaucoup en soi et c'est beaucoup quand on parle de violences sexuelles qui sont en général tabous et qui ne sont pas rapportées par les survivants. On insiste entre autres dans le rapport sur le fait que les femmes sont autant à risque que les hommes, parce qu'il y a cette espèce de croyance aussi bien chez les Syriens que chez les Européens que les femmes sont moins à risque parce qu'elles ne sont pas soumises à l'obligation du service militaire. Et notre rapport montre que c'est faux. 9 des 15 cas de femmes qu'on a documentés pour le rapport sont rentrées seules, c'est-à-dire sans hommes, et ont subi des abus. Il y a un témoignage qui reste avec moi, c'est l'histoire de cette mère qui est rentrée du Liban seule avec ses deux enfants Et quand elle est arrivée au point de passage entre le Liban et la Syrie, elle s'est fait immédiatement interroger par un responsable des renseignements syriens qui lui a demandé pourquoi elle avait quitté la Syrie. Ensuite, il l'a accusée d'être une opposante. Il lui a dit « Tu n'aimes pas Bachar al-Assad, tu es une terroriste ». Juste après ça, il l'a violée devant ses enfants et il a violé sa petite-fille de 5 ans. Ce qui est frappant, c'est que la plupart d'entre eux ne s'attendaient absolument pas à ça et ne s'attendaient absolument pas à être dans le viseur des autorités en rentrant. Donc la surprise est d'autant plus grande quand ils sont soumis à ces abus. Évidemment, quand c'est des enfants, c'est encore plus inexplicable et totalement inadmissible. Et il y a l'histoire de cet homme qui est rentré de Jordanie avec sa famille. Dès qu'il a passé le poste frontière, il a été arrêté, il a été détenu pendant 6 mois et torturé. Et quand il est sorti d'aller voir un de ses cousins qu'il avait appelé avant de rentrer, il lui a dit « Mais pourquoi tu m'as dit que la situation était comme ça et tu m'as pas dit qu'il y avait des problèmes ?» Et son cousin lui a répondu « Je suis désolé, mais on n'est pas libre de dire ce qu'on veut au téléphone. Je suis désolé de t'avoir induit en erreur. » Et après ça, cet homme m'a dit « Dans votre rapport, dites quelles sont les conditions, dites aux gens qu'il ne faut pas qu'ils rentrent. » Pour le gouvernement syrien, tous les opposants politiques sont des terroristes, déjà. Les autorités syriennes soupçonnent très fortement les réfugiés qui rentrent d'être des opposants. Ils se disent ils sont partis parce qu'ils ne soutenaient pas le gouvernement syrien, parce qu'ils n'ont pas voulu le défendre, donc ce sont des opposants. Par exemple, certains réfugiés ont été accusés d'être des espions, d'espionner pour le profit d'autres pays. En fait, les autorités syriennes assimilent les opinions politiques des réfugiés aux opinions, aux positions politiques des gouvernements des pays d'accueil. Donc par exemple, une femme qui rentrait de Turquie, les forces de sécurité lui ont dit « Ah mais tu es une erdoganiste ». Dans d'autres cas, il y a cette perception que les réfugiés ont de l'argent et qu'à l'étranger, ils ont collecté de l'argent qu'ils ont envoyé en Syrie pour soutenir financièrement des groupes armés. Toutes ces raisons nourrissent une suspicion vis-à-vis des réfugiés, indiquant qu'ils seraient des opposants. Et donc c'est ce qui nous permet de conclure dans le rapport que tout le monde est à risque. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que tous les réfugiés qui rentrent vont être soumis à des violations, on dit que tous les réfugiés qui rentrent peuvent être potentiellement suspectés d'être des opposants et donc ensuite d'être persécutés, d'être soumis à des violations des droits humains. Toutes les personnes qui ont pu quitter la Syrie de nouveau après l'ont fait. Toutes les autres ne sont pas parties parce qu'elles ne peuvent pas, soit parce qu'elles sont toujours détenues, soit parce qu'elles sont toujours disparues, soit parce qu'elles ne peuvent pas emprunter les routes des passeurs, puisqu'aujourd'hui les frontières avec les pays limitrophes sont fermées et donc il faut passer par des passeurs pour sortir du pays. Ou bien, un dernier cas de figure, il y a un certain nombre de personnes qui restent en Syrie parce qu'ils ont un proche qui est détenu ou qui a disparu et qu'ils veulent rechercher. Mais personne ne reste aujourd'hui en Syrie parmi ces gens qui ont témoigné parce qu'ils se sentent en sécurité. Et donc, nous disons à Amnesty International que tous les réfugiés syriens doivent continuer à être protégés dans les pays d'accueil et ils ne doivent pas être forcés à rentrer en Syrie. Le message qu'Amnesty veut faire passer, c'est que la guerre n'est pas finie en Syrie, que les civils sont toujours à risque en Syrie et donc que les réfugiés qui rentrent encourent un risque réel de persécution à leur retour. Et donc il est absolument essentiel que les pays d'accueil, les pays frontaliers mais aussi les pays européens maintiennent la protection qu'ils accordent aux réfugiés syriens qui sont sur leur sol, qu'ils augmentent les réinstallations et qu'ils augmentent aussi leur aide humanitaire et financière aux pays de la région qui accueillent le plus grand nombre de Syriens. Parce qu'il faut avoir en tête qu'aujourd'hui il y a 6,6 millions de réfugiés syriens, parmi eux 5,5 millions se trouvent dans les pays frontaliers de la Syrie, donc la Jordanie, le Liban, la Turquie, l'Irak. Donc l'Europe peut vraiment augmenter son effort d'accueil et de protection envers les réfugiés syriens.
Voilà, c'était donc le témoignage d'Amnesty International fait à la suite de ses recherches par rapport au retour des réfugiés syriens. Et donc on va vous changer de sujet, effectivement, et c'est quoique Quoique, quand on parle de réfugiés, on ne va pas vraiment changer de sujet. C'est Mia qui va vous en parler.
Oui, je vais vous parler du projet de loi Asile et Immigration 2023, un énième texte dangereux. Donc, ça avait déjà été abordé dans l'émission par Claire Lise. Et là, on va en parler un peu plus. Donc, mercredi 1er février, le projet de loi sur l'asile et l'immigration a été présenté au Conseil des ministres. Il devrait être présenté au Sénat en mars, puis à l'Assemblée nationale avant l'été. Ce 22e texte en 30 ans confirme une fois de plus l'érosion des droits des personnes exilées en France. Décryptage. Depuis 30 ans, les textes relatifs à la politique migratoire de la France se succèdent et ont toujours les mêmes conséquences. Le recul des droits des personnes exilées et la détérioration de leurs conditions d'accueil. Ce nouveau projet de loi présente donc peu de surprises dans sa manière d'appréhender une situation qui continue au fil des décennies d'être considérée, à tort, comme un problème ou une question à régler. Le système de l'asile et de l'accueil en France dysfonctionne depuis de nombreuses années. Avant un nouveau projet de loi, c'est tout d'abord un respect des droits déjà prévus par le droit national, européen et international qui est nécessaire pour améliorer la situation dramatique sur le terrain. Des personnes contraintes de vivre sous des tentes au cœur de nos villes, des atteintes graves aux droits fondamentaux à nos frontières, pour ne citer que ces problèmes. Dans l'attente de ces mesures de fond, nous souhaitons voir évoluer le projet de loi proposé par le gouvernement à l'occasion du débat parlementaire qui s'ouvrira. Notre priorité, le respect des droits humains de tous et toutes. Voici la suite du décryptage de ces mesures proposées. La collégialité des juges, gage d'impartialité supprimée. Donc on en avait déjà parlé avec Claire Lise, ils veulent passer de 3 juges à 1 juge. Aujourd'hui, à la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, la décision de protéger une personne exilée en lui donnant l'asile ou de rejeter sa demande est le plus souvent prise par une formation collégiale de 3 juges. Et parmi ces 3 juges, la présence d'une personne nommée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés fait aujourd'hui la spécificité de la CNDA. C'est un acquis précieux car beaucoup ont une expertise sur les pays d'origine qui permet de mieux comprendre les raisons pour lesquelles la personne est en exil. Qu'est-ce que la Cour nationale du droit d'asile ? Cette Cour nationale est une juridiction administrative spécialisée qui examine les recours formés contre les décisions de l'OFPRA en matière de demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est l'autorité compétente pour accorder le statut de réfugié et prendre les décisions qui s'y rapportent. Retrait, réexamen. En cas de contestation de cet office, à la décision de cet office, l'OFPRA, la CNDA peut réexaminer la totalité du dossier du demandeur d'asile et statuer à nouveau sur sa requête. La décision de la CNDA remplace celle de l'OFPRA. Elle peut faire l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'État. Ce recours est non suspensif, c'est-à-dire qu'il ne peut empêcher l'expulsion de la personne déboutée de sa demande d'asile. La CNDA possède aussi une compétence consultative pour les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par une mesure d'assignation, d'expulsion ou de refoulement. Pourquoi tous ces détails ? Que je vous explique. Parce que le projet de loi actuel prévoit la généralisation d'un juge unique à tous les recours faits par des personnes demandant l'asile devant la CNDA, sauf en cas d'affaires particulièrement complexes. Un juge seul et non 3 aurait alors la responsabilité de décider, d'accepter ou de refuser la demande d'asile, donc de décider seul de la vie de nombreuses personnes. Un véritable recul pour les personnes qui demandent l'asile en France. La présence de 3 juges permet de croiser les regards et d'éviter de se laisser guider par des représentations personnelles pour juger la crédibilité et la cohérence du récit. Cette collégialité est un gage d'impartialité. Une journée d'audience, ce sont 13 dossiers examinés, 13 histoires de vie très différentes. D'un opposant politique sri-lankais à une jeune fille fuyant l'excision en Guinée, en passant par des persécutions liées à l'orientation sexuelle, 3 juges ne sont pas de trop lorsqu'il s'agit de traiter de dossiers si sensibles. De nombreuses personnes qui demandent l'asile jouent leur vie et leur sécurité à ces audiences. Maintenant, parlons de l'enfermement administratif des enfants. Enfin, une bonne nouvelle. Après l'enfermement de milliers d'enfants en raison de la situation administrative de leurs parents, après 9 condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme et après des années de campagne des associations, le gouvernement envisage dans cette loi d'interdire enfin l'enfermement des enfants en centre de rétention administrative. Cette mesure concerne les centre de rétention, mais comme nous le redoutions, elle ne concerne pas les locaux de rétention administrative et les LRA et les zones d'attente. Donc, des enfants continueront à être enfermés dans les lieux de privation de liberté. De plus, les mineurs de 16 à 18 ans ne sont pas concernés par la mesure, ce qui est tout bonnement contraire au droit international. Nous restons aussi préoccupés par les déclarations du ministre de l'Intérieur souhaitant exclure les enfants de Mayotte de cette interdiction. En 2021, ce ne sont pas moins de 3135 enfants qui ont été enfermés en centre de rétention et 76 en France hexagonale selon la CIMAD. La différence entre le CRA et le LRA, qu'est-ce ? Les centres de détention sont des bâtiments où sont retenues toutes les personnes étrangères en attente de leur expulsion du territoire français. Le temps passé dans les CRA est de 90 jours maximum et ils sont gérés par la police aux frontières. Les locaux de rétention administrative, LRA, moins grands que les CRA, sont utilisés pour retenir des personnes étrangères en situation irrégulière en vue de leur expulsion du territoire français. Un LRA, c'est par exemple une pièce dans un commissariat. Généralement, les personnes y restent maximum 48 heures avant d'être placées en CRA. Contrairement aux CRA, les LRA ne prévoient pas le même accès aux droits pour les personnes enfermées. Par exemple, aucune association de défense des droits des étrangers n'est présente dans les locaux. Nos demandes sur ces deux mesures inquiétantes, nous demandons la suppression définitive de l'article prévoyant un juge unique à la Cour nationale du droit d'asile et souhaitons que la collégialité reste la règle et le juge unique l'exception. Nous demandons l'interdiction stricte de l'enfermement des mineurs, moins de 18 ans, en centre de rétention et en zone d'attente en France hexagonale et ultramarine. Et voilà. C'était très important d'en parler oui. Pour que vous soyez au courant.
Oui, et de toute façon, on sera amené à en reparler dans de futures émissions parce que le projet de loi est toujours en discussion et on continuera à lutter contre, c'est clair. Première pause musicale, on se retrouve juste après.
Encore l'insomnie, sonnerie du matin. Le corps engourdi, toujours endormi, miroir, salle de bain. Triste face à face, angoisse du réveil. Reflet dans la glace, les années qui passent ternissent le soleil. Ok. Au flash d'infos, les crises, le chômage, la fonte des glaces, les particules fines, courir après l'heure, les rames bondées, les passes ton regard. La vie c'est l'usine, hamster dans sa roue. Petit chef grand bourreau. Faire la queue partout, font la gueule partout, la vie c'est robot.
T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère.
Encore fatigué, la cloche du midi. Le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face. Poursuite du bonheur. Reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassines, les cons, les cancers. Le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais. La vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo. Faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire. Quand rien n'est facile, respire. Même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère.
Les yeux ouverts ne trouvent pas le sommeil dans le lit, tourne tout le temps. Les phares des voitures balayent le plafond de leurs ombres dansantes. La nuit étouffe, la chaleur est lourde, l'orage est en suspens. Où sont les rêves, où sont nos rêves d'enfants? S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants, chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence, se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes, ne pas craquer, claquer, cramer, desserre ton col pour respirer.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc cette Amnesty International, on vient d'écouter Gaëlle Fay, Respire, et merci à Odile qui nous écoute, elle est en face de moi, parce que c'est elle qui m'a soufflé de chercher dans les œuvres de Gaëlle Fay de quoi illustrer notre émission de ce soir. Donc voilà, tout à l'heure on va écouter un autre morceau de Gaëlle Fay, mais je ne vous le dis pas maintenant, et c'est Mina qui va reprendre la parole.
Et Respire, tu as le souffle court, et Espère, et c'est justement grâce à Madame Paulette que Amir Afghan a pu espérer en étant à la recherche de son frère. Alors là, c'est une nouvelle rubrique, j'espère que je vais pouvoir la pérenniser, qui s'appelle Tranche de vie. J'ai dit, tiens, je vais changer. C'est pas rubrique culturelle ce soir, c'est Tranche de vie. C'est le récit dans la chronique d'Amnesty International par Laetitia Godin, qui s'appelle Madame Paulette et Amir. Amir est afghan, réfugié en France, parti à la recherche de son frère qui a disparu entre la Turquie et la Grèce. Il se retrouve coincé dans un no man's land administratif, jusqu'au jour où Madame Paulette prend son dossier en main. Paulette Genet connaît le poids des mots, ceux que l'on soupèse afin d'obtenir des administrations compétentes, non pas la solution miracle, mais une porte qui s'entr'ouvre, un nom, un numéro, une adresse mail. Lorsque la Bretonne, âgée de 63 ans, se souvient des étages qui ont permis de sortir Amir, ce n'est pas son vrai prénom, c'est confidentiel, vous comprendrez pourquoi, d'une mère de noir, l'objectif kafkaïen revient à l'envi, littéralement. De quoi rendre cinglé l'intéressé, tout comme la bénévole mobilisée durant 7 mois. Décembre 2019, Amir, 27 ans, et afghan et bénéficiait d'une protection subsidiaire en France. J'ai obtenu mon diplôme d'électricien à Brest et ça faisait 3 mois que je travaillais à Paris, explique-t-il, dans un français presque parfait. L'agence d'intérim venait de me proposer un nouveau contrat. Le jeune homme quitte la France avec un titre de voyage en toute légalité puisque la protection subsidiaire, acquise 3 ans plus tôt, lui permet de franchir les frontières. Fazal, son frère mineur, est parvenu à s'enfuir quelques mois auparavant. De la province afghane de Kunduz à la frontière du Tadjikistan et à rejoindre la Turquie en payant des passeurs. Quand mes parents m'ont demandé d'aller le chercher, ça faisait un mois que l'on n'avait plus de nouvelles. On se disait qu'il était quelque part en Grèce. Amir pensait que le voyage serait de courte durée, le temps de retrouver son cadet et de consulter les autorités consulaires afin d'engager une démarche d'asile en France. Athènes, puis Thessalonique, au nord, les semaines passent. Fazal reste introuvable, mais Amir ne baisse pas les bras. Il sait les parcours d'exil, pavés d'obstacles. En revanche, le presque trentenaire n'avait pas prévu le monde à l'arrêt. La pandémie va stopper net ses recherches et les semaines de confinement vont entamer la validité de ses documents administratifs. En mai 2020, il souhaite renouveler son titre de séjour à l'ambassade de France en Grèce. Des amis l'informent qu'en raison de la crise sanitaire, l'Hexagone a prolongé de 6 mois la validité du précieux papier. Persuadé d'être éligible à la prolongation, Amir reporte les démarches et poursuit ses recherches. L'information délivrée par ses camarades était incomplète. Seuls les titres de séjour expirant entre le 15 mars 2020 et le 15 juin 2020 bénéficiaient de ce report. Celui d'Amir courait jusqu'au 19 juin 2020, relate Paulette, sans buter sur les dates. La suite prend la forme brutale d'un punchback. Cette politique de renvoi de migrants orchestrée à la frontière grecque sur le fleuve Evros est pourtant contraire aux droits européens et international. Arrestation, incarcération, déportation. En novembre 2020, le Breton d'adoption est arrêté à Thessalonique et incarcéré avec 5 autres migrants. Le soir, ils nous ont mis dans des camions, puis ils nous ont forcés à monter dans de petits bateaux. Ils nous frappaient, ils ont pris nos portables, notre argent, nos papiers. Avant d'arriver en Turquie, ils poussaient les gens dans l'eau. Si tu ne sais pas nager, tu meurs. Moi, je me suis accrochée à des branches. Amir explique qu'il possède un statut de réfugié en France, mais n'est pas écouté. Quand il me contacte, en décembre 2020, Amir est à Istanbul, se souvient David Torondel, membre de l'antenne quimperoise de la Ligue des droits de l'homme. Le militant est coutumier des administrations. Il appelle l'ambassade de France en Turquie, laquelle déclare qu'elle délivrera à Amir un visa de retour, à condition qu'il obtienne de la préfecture de Quimper un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour. Simple. Le 29 décembre 2020, David Torondel rédige alors un mail au secrétaire général de l'administration finistérienne, puis une relance le 27 janvier 2021. Aucune réponse. Il remplit le formulaire de renouvellement en ligne, qui ne reconnaît pas le numéro de la carte de séjour d'Amir. Il écrit ensuite un courrier détaillé et circonstancié à la directrice de cabinet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Rien. Amir désespère. En mars, il contacte un ami afghan, morlésien, qui lui donne le numéro de Paulette. En écoutant le récit d'Amir, je me suis dit que si David n'avait rien pu faire, ça allait être compliqué. Dès lors, en prenant soin de toujours mettre son collègue dans la boucle, celle qui milite dans plusieurs associations et collectifs d'aide aux personnes en exil autour de Morlaix active son réseau. D'abord, la défenseure des droits de Brest, grâce à laquelle elle a précédemment obtenu un rendez-vous à la préfecture pour un Afghan en grande vulnérabilité. Mais la DDD bloque. Amir est sorti de France depuis plus de 3 mois. Or, il faut résider de façon habituelle sur le territoire pour renouveler un titre de séjour, rappelle l'autorité administrative. L'ancienne travailleuse sociale s'arrache les cheveux. Mais il s'est absenté pour des raisons humanitaires. Un permis, un diplôme de langue, un CAP d'électricien. En juin 2021, après 3 tentatives, Amir parvient clandestinement à regagner la Grèce depuis la Turquie. Comme il n'a pas rendez-vous, un agent de sécurité l'empêche de frapper à la porte de l'ambassade de France. Le 9 juin 2021, Paulette sollicite à nouveau l'OFPRA en lettres majuscules. Il ne sait pas comment faire pour revenir en France où il a toute sa vie. Sa vie, un permis, un diplôme BA en langue française, un CAP d'électricien, etc. La réponse, porteuse de précieuses informations, ne parviendra que 5 semaines plus tard. En attendant, Paulette ne décolère pas. L'ambassade de France, en Grèce, là, balade de service en service, sans réponse claire. Le consulat ignore ses mails. C'était vraiment une situation dégueulasse. Mais Madame Paulette a envoyé des messages partout pour trouver une solution. Elle était comme un ange pour moi, se remémore Amir, avec émotion. Sa correspondance, quasi quotidienne avec Paulette via WhatsApp, le tient debout. Pendant toute cette période, je l'ai trouvé très philosophe. Il n'a jamais baissé les bras, ne s'est jamais emporté. Il était désespéré, mais par pudeur, il ne le montrait pas. L'intéressé confirme. J'étais stressée à l'intérieur, c'était dur. Je vivais dans un squat. Je ne sortais pas parce que j'avais peur d'être expulsée en Turquie. Je n'avais pas d'argent. Mais Madame Paulette, elle me disait de tenir le coup. De guerre lasse, le 10 juin, Paulette détaille à nouveau la situation d'Amir auprès d'une liste CAO, en référence au centre d'accueil et d'orientation, constituée en 2016 pour que les bénévoles puissent échanger leurs bonnes pratiques. Marie Cosnet, une militante de Bayonne, lui conseille de contacter Madame Domiti Nicolet, basée à Thessalonique, cofondatrice de l'association Egal Equal Aid, créée en 2019 afin d'apporter une assistance juridique aux exilés du nord de la Grèce. Paulette n'est plus seule. Le cas d'Amir, c'est la honte des hautes autorités françaises. Il avait un statut en France, il a vécu dans la terreur et perdu un temps fou, rapporte l'avocate. Et d'ajouter, Paulette Janté a harcelé les administrations, elle n'a rien lâché, elle a fait un travail admirable. Madame Nicolet, et l'une de ses consoeurs en France conseilleront Amir et interviendront en doublon avec Paulette auprès des autorités consulaires le 22 octobre 2021. Enfin, Amir est de retour en Bretagne. Sans Fazal. Si, au début, le bénévole pensait pouvoir agir avec des ONG pour retrouver l'adolescent, elle comprend vite qu'il ne faut pas insister. Amir ne veut plus en parler. C'est ce que sa famille et lui ont décidé. L'Afghan est reconstruit, s'est reconstruit avec le poids de l'absence et l'aide de Paulette, pour ne pas vriller. La Finistérienne se baigne à Plougasnou. Quelle que soit la saison, elle aime aussi rejoindre, autour d'un verre, les copains du café Théodore, à Trédrèze Lokemo. Ces derniers mois, Amir a obtenu le renouvellement de sa protection temporaire, le retour de sa femme en mai 2022, un logement grâce au 1% patronal et un CDI comme fibreur à Rennes. Encore un coup de Madame Paulette. Je connais une femme qui travaille dans un CFA, qui connaît un patron. Et voilà. Donc une belle histoire de tranche de vie, très dure. Ça me fait penser à Menestayani, le journaliste qui a eu du mal à avoir ses papiers aussi, qui devait fuir pour des raisons politiques son pays. Et les démarches administratives, et dès que tu pars du territoire aussi, très longues. Éprouvées. Donc, j'appuie encore plus sur le projet de loi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bien S'il sûr. N'y a plus qu'un juge, bah alors là, tu Bien. Peux mourir.
Bien sûr. Bien
tu
sûr.
Peux mourir outé, hein. Prends même pas de bateau, ne fais rien, n'essaye pas de sauver ta vie. Tu n'as pas le droit.
Ça, ce ne sont pas des propos amnistiaires, ce ne sont pas des propos parce qu'on
fait. C'est justement...
J'ai bien compris. Non, mais j'ai bien compris. C'était ironique.
Ça veut dire un peu ça. C'est. Mais ils n'ont pas le droit de venir sur le territoire.
Ben, c'est ça.
Il n'y a pas de place.
C'est ça, exactement. Soi-disant.
Mais bon, ils vivent la misère. Je vais te. Populaire, ils vivent la misère. Donc ce n'est pas possible, je reprends mon accent du Sud.
Oui,
alors je devais passer la parole, Didier.
Oui, mais je vais la prendre la parole, t'inquiète pas. Donc on va complètement changer de pays, je vais vous lire un petit communiqué qui est paru toujours dans la chronique. Hein. On vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty France. On ne peut que vous recommander de vous abonner. Vous avez le formulaire en ligne sur le site d'amnesty.fr, donc n'hésitez pas. Et ça parle des enfants talibés au Sénégal, et je crois qu'on n'en a jamais parlé dans l'émission. Les enfants talibés au Sénégal, ce sont des enfants qui viennent de familles en général très pauvres et qui sont confiés à des daras, si j'ai bien compris, qui sont des écoles coraniques au Sénégal, et donc ils ont un enseignement religieux. Mais en fait, ces écoles coraniques les utilisent énormément pour mendier et pour assurer des ressources. Donc voici le petit communiqué, et ça s'appelle « Sénégal ». Bourreau d'enfants. Mohamed, 15 ans, se souvient du cauchemar qu'il a traversé entre 6 et 9 ans lorsqu'il vivait dans une école coranique d'Ara de la cité religieuse de Touba, confiée à un maître pour étudier le Coran. Nous étions une centaine de talibés à vivre dans ce lieu dégoûtant. Détail de l'adolescent qui a pu échapper à cet enfer et se réfugier dans une association à Dakar. À l'époque, Mohamed mange en fonction des dons reçus, souvent mal, et souffre de carences. Les problèmes sanitaires, surtout des maladies de peau, sont aussi fréquents à cause de l'insalubrité et du manque d'accès aux soins. Chaque jour, l'enfant chaque jour, l'enfant doit mendier pour rapporter 2000 francs CFA, environ 3 euros, sous peine d'être battu. Majoritairement sénégalais, mais aussi issus de la sous-région, les talibés seraient plus de 200 000 rien qu'à Dakar. Certains ont moins de 5 ans. Avec l'exode rural des années 90, les maîtres coraniques se sont retrouvés sans ressources et ont envoyé les enfants mendier. Pour certains, c'est devenu une exploitation économique, rapporte Sedi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal. Dans un rapport du 12 décembre sur la protection des enfants talibés, Amnesty International dénonce leur maltraitance. Ainsi, Mohamed, pour avoir tenté de fuguer de son dara, s'est retrouvé enchaîné pendant 2 mois. Régulièrement, des talibés décèdent à la suite de mauvais traitements. Malgré l'interdiction de la traite des enfants dans le pays et la ratification des conventions internationales sur les droits de l'enfant, les acteurs du secteur fustigent le peu de moyens alloués et l'inaction gouvernementale pour faire de cette problématique une priorité nationale. Voilà. Donc je pense que c'est la première fois qu'on en parle, mais ça me paraît important de dire effectivement quelques mots. Et Odile, que vous n'entendrez pas, mais me confiait avant l'émission qu'elle a séjourné au Sénégal et qu'elle a pu assister effectivement à des enfants bondiers dans les rues. Donc effectivement, tout ce qui est dit dans ce rapport d'Amnesty, qui est très récent et qui est paru le 12 décembre, se vérifie. Et encore une fois, il faut agir avec nous pour que cela cesse. On va passer la deuxième pause musicale, donc à nouveau Gaël Faye.
Faye,
je reprononçais mal. Et on se retrouve juste après.
Gatoyi, gaugu kaniniya, warapunywe ni wapuye, waragowe ni wagoka, gaugu gatoyi.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunywe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunywe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille. Je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale. À force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope. Citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunywe ni wapuye, waragowe ni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya,
j'en suis sûr.
Warapunywe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International. On vient de réécouter Gaël Faye, c'est comme ça qu'on dit, Faye.
Faye.
Faye. Et la chanson s'appelle Petit Pays. Voilà. Et maintenant, on va vous faire un appel à l'action, mais c'est Mina qui va vous en dire plus.
Oui, donc on en a deux, pas que deux, mais deux dont on veut vous parler ce soir. Donc, une au Burundi, la condamnation d'une journaliste qui doit être annulée. Le 2 janvier, le tribunal de grande instance de Mukasa à Bujumbura au Burundi a condamné la journaliste Floriane Irangabiaye à 10 ans de prison et une amende d'1 million de francs burundais, 482 dollars des États-Unis. Elle a été déclarée coupable de charges forgées de toutes pièces d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Ses avocats ont fait appel de cette décision. Floriane a été arrêtée le 30 août 2022 alors qu'elle rendait visite à des parents à Bujumbura. Elle est actuellement détenue à la prison de Muginga. Amnesty International estime que Floriane est poursuivie uniquement pour avoir exercé de manière pacifique ses droits fondamentaux et pour avoir mené son travail de journaliste et demande sa libération immédiate et sans condition. Deuxième action urgente, en Iran, 14 personnes risquent d'être exécutées en lien avec les manifestations. Au moins 14 personnes risquent d'être exécutées en lien avec le mouvement national de contestation, notamment pour des actes n'impliquant pas d'homicide volontaire, en violation des obligations de l'Iran au regard du droit international. Les autorités ont violé leur droit à un procès équitable et ont infligé à la plupart d'entre elles des actes de torture et des mauvais traitements, incluant des coups de fouet, des décharges électriques, des menaces de mort, des viols et d'autres formes de violences sexuelles. Depuis décembre 2022, au moins 4 jeunes hommes ont été exécutés arbitrairement en lien avec les manifestations à l'issue de procès d'une iniquité flagrante. Alors maintenant, on va vous rappeler, si vous voulez écrire et aider ces personnes, comment on fait ? Comment on fait, Didier ?
C'est une bonne question. Donc, alors, si vous voulez effectivement participer avec nous à ces actions urgentes, encore une fois, on vous rappelle que ça consiste à écrire aux autorités en question, en signant de votre nom, pour les deux cas dont vient de vous parler Mina. Alors, vous nous envoyez un mail à evreux@amnistyfrance.fr, evreux@amnistyfrance.fr, et on vous renvoie les actions urgentes, l'explication, les modèles de lettres à envoyer que vous pouvez modifier, mais vous avez déjà un modèle tout prêt, et les contacts, effectivement, où envoyer ces courriers. On en envoie énormément, très majoritairement, par mail maintenant. Quelquefois, c'est par courrier postal, mais c'est très majoritairement par mail. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois, parce que grâce à ces actions urgentes, on obtient régulièrement la libération ou la réintégration dans leurs droits de personnes que l'on défend. Donc c'est important. evreux@amnistyfrance.fr. Voilà, et dans l'émission précédente, celle de la fin janvier, il y a Edith qui vous a parlé d'un nouveau projet concernant les atteintes au droit à la vie privée et à la surveillance des populations qui est envisagé par les autorités françaises actuellement dans le cadre des prochains Jeux Olympiques l'année prochaine à Paris. Et dans la chronique, encore une fois, la chronique Le Mensuel d'Amnesty France qui vient de paraître, il y a un petit article qui va dans le même sens, mais je pense que c'est tout à fait parlant sur les risques que ce projet de loi, effectivement, les risques qu'il comporte. Alors, ça s'appelle Minority Report. Si vous êtes fan des films de Steven Spielberg, ça vous rappellera peut-être quelque chose. Ce bon vieux film de science-fiction prédisait qu'un jour, l'intelligence artificielle remplacerait la police. Que nous allions vivre dans un monde où les algorithmes traqueraient les comportements suspects des citoyens avant même que ces derniers n'aient commis le moindre délit. L'article 7 du projet de loi relatif aux Jeux Olympiques de 2024 semble être inspiré de ce fantasme sécuritaire en ouvrant la voie aux vidéos de surveillance automatisée, dites VSA, en France. Jusqu'en 2025, il y aura un test géant. Les images récoltées par les drones et les caméras de surveillance dans l'espace public seront passées au crible par des logiciels. Il reviendra aux algorithmes de relever dans la foule, un stade, le bus ou le métro, des comportements suspects et d'alerter les autorités. Quid des SDF ? Le fait qu'ils restent statiques pendant de longues périodes va-t-il affoler les logiciels qui vont siffler les policiers afin qu'ils les délogent ? Quelles attitudes, quels gestes seront considérés comme suspects au juste ? en vertu de quel principe? Et s'il me prenait, à moi, en plein JO, de faire un sit-in sur une place pour dénoncer la présence d'un dictateur dans les loges? Ce projet de loi fait grincer les dents des défenseurs des libertés. Non seulement parce que le gouvernement a enclenché la procédure accélérée, mais aussi parce que personne ne sait quels en seront les véritables garde-fous. Fou, c'est le mot, quand un logiciel dicte les normes et, à terme, régit nos comportements. Donc voilà ce qui nous attend, et ça ne se passe pas au Sénégal ou en Iran ou en Chine, mais ça se passe chez nous l'année prochaine, premier test pendant les JO, sous prétexte, bien sûr, de maintenir la sécurité des gens. Voilà où on en est. C'est absolument inquiétant, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. On approche du terme de l'émission, mais il nous reste quand même quelques minutes. Donc, je ne sais pas, Mina, tu avais envie de parler d'autre chose ou pas?
Tu veux nous rappeler les infos locales?
Oui, on va rappeler les infos locales.
Et après, on enchaînera sur un petit article que tu as envie de lire, je le sens. Dis-moi d'abord les infos locales, s'il te plaît. La prochaine émission, elle est quand?
Je ne vais pas t'écouter, Mina.
Le 28 février. Qu'est-ce qui se passe le 14 mars? Il se passe quelque chose?
Je vais vous lire quand même une autre petite news qui est tirée d'une autre rubrique de la chronique, qui s'appelle Nos droits à l'épreuve des nouvelles technologies, parce que je l'ai trouvée intéressante. Et ça s'appelle l'Espagne, news d'un fake. C'est une première en Espagne. Un garde civil a échappé de 15 mois de prison et de 1600 euros d'amende pour avoir diffusé une vidéo mensongère sur Twitter. Publiée en 2019, la vidéo montrait l'agression d'une femme dans la rue, accompagnée d'un commentaire raciste. Et qui disait ce commentaire: « Ici, vous avez un migrant mineur non accompagné marocain de Canet de Mar, donc une ville en Espagne. » Donc, d'après ce garde civil, c'était le mineur en question qui avait agressé cette femme en Espagne. Mais en réalité, les images avaient été prises en Chine et l'agresseur n'était ni marocain, ni de Catalogne. Et donc, la justice l'a condamné et ce garde civil est actuellement en prison. Seule la xénophobie a été condamnée, la bêtise n'étant pas passible de poursuite. Voilà. Et toujours dans la même rubrique, une autre petite nouvelle très courte. Ce qui s'est passé aussi en Égypte pendant la dernière COP, c'est la COP 27, qui a eu lieu en Égypte à l'automne dernier. Donc, grand messe onusienne sur le climat, la COP 27 de novembre a permis au pays hôte, l'Égypte, de déployer tout son savoir-faire en matière de surveillance. Encore une fois, on parle de surveillance. Parmi les innovations, l'installation de caméras dans chaque taxi de Sharm el-Sheikh, où a eu lieu la conférence, afin de contrôler conducteurs et passagers. Autre innovation, la création d'une application exigeant des participants qu'ils livrent leur numéro de passeport, donne accès à la caméra, au micro et à la géolocalisation de leur mobile. Donc, ça s'est passé dans un climat de surveillance très tendu, cette COP, effectivement, 27. Voilà. Donc, Mina, tu parlais d'infos locales. Effectivement, on a quelques infos locales. Enfin, ça va être très court, d'ailleurs. Donc, on vous retrouve pour notre prochaine émission d'Amnesty le 28 février, le mardi 28 février, en direct sur l'antenne de Principe Actif, donc de 19h à 20h. Et on a une autre émission, Fréquence Droits Humains, qui va être consacrée aux droits des femmes, qui sera en direct depuis le Collège de Navarre et qui sera diffusée en direct le jeudi 9 mars de 18h à 19h30 sur l'antenne de Principe Actif. Émission dans le cycle Fréquence Droits Humains sur le droit des femmes, jeudi 9 mars à 18h. Vous avez également tous les podcasts, aussi bien de nos émissions Amnesty que des podcasts des émissions Fréquence Droits Humains, sur le site de la radio principeactif.net. Vous allez dans les différentes rubriques et vous retrouvez tous les podcasts. Et voilà! As-tu d'autres infos, petite Mina? Il nous reste 3 minutes, 4 minutes avant la fin de l'émission, pour une fois qu'il nous reste du temps.
Non, je veux bien que tu nous rappelles, je vais faire juste un petit résumé.
Vas-y.
Comme vous ne recevez pas la chronique des sorties culturelles.
Vas-y, vas-y.
Mais l'adresse mail de Amnesty Évreux.
Oui.
Site internet.
Oui, oui, Mina. Donc l'adresse mail d'Amnesty Évreux, c'est evreux@amnestyfrance.fr.
Parce qu'elle est trop dure à retenir, c'est pour ça que je lui demande.
Tu t'en rappelles jamais.
Donc, juste pour vous rappeler, je vous en ai parlé dans une émission précédente. Il y a toujours l'exposition jusqu'à juin 2023 à la Philharmonie de Paris sur Fela, musicien et activiste nigérien. Donc, n'hésitez pas à y aller. Après, donc sur la chronique, c'est Aurélie Carton qui nous fait des petites chroniques qui sont bien écrites. Et là, elle nous parle de Dounia et la princesse d'Alep, qui est un film soutenu par Amnesty International, qui est sorti le 1er février. On a aussi, après vous dire si ça passe à Évreux, je ne sais pas. Et il y a aussi, non, Odile qui est ventriloque m'a dit non.
Odile qui ventriloque.
Elle a montré avec ses doigts.
Ah bon.
Elle a dit non, non. Un autre film, Tel Aviv Beyrouth, qui est sorti le 1er février. Il y a une BD aussi, Capital et Idéologie, qui est sortie au Seuil, avec la revue dessinée. Je peux vous lire le résumé, je pense que c'est intéressant. C'est de Claire Allais et Benjamin Adam. Quoi de mieux pour comprendre plus de deux siècles de capitalisme que de l'incarner dans l'histoire d'une famille française de 1789 à nos jours, inspirée par les travaux de l'économiste Thomas Piketty. Ce roman graphique décortique les mécanismes qui ont généré la croissance exponentielle des inégalités de richesse dans le monde, avec une juste dose d'humour et une généreuse palette de couleurs. Donc si j'ai le temps, je vais acheter la BD et je la lis pour la prochaine émission. Et voici que j'ai fini.
C'est bien. Bon, bah, comme il nous reste un peu de temps, effectivement, voilà, je regarde la pendule en même temps, je vais quand même vous donner une bonne nouvelle, parce que c'est important aussi les bonnes nouvelles. Et bon, pour nous, c'est tout à fait symbolique, et pour ceux qui écoutent les émissions depuis quelques années, ils vont comprendre pourquoi. Ça se passe au Brésil, et c'est la bonne nouvelle s'appelle « Tout un symbole ». Sa nomination est symbolique à plus d'un titre. Aniele Franco, 37 ans, enseignante, journaliste, militante antiraciste et féministe, a été nommée ministre à l'égalité raciale dans le nouveau gouvernement brésilien du président Lula, entré en fonction le 1er janvier. Aniele est aussi la sœur cadette de Marielle Franco, c'est pour ça que je vous en parlais, c'est moi qui fais le commentaire, parce que Marielle Franco, on a beaucoup lutté pour elle, malheureusement elle est décédée, assassinée le 14 mars 2018, alors qu'elle était conseillère municipale de Rio, et elle était fortement engagée contre le racisme, l'homophobie et les violences policières. Voilà, et c'est donc sa sœur qui a été nommée ministre à l'égalité raciale dans le nouveau gouvernement brésilien du président Lula, et on ne peut que l'en féliciter. Voilà, eh bien on va rendre l'antenne, effectivement, on va laisser la place au laboratoire, avec grand plaisir, et on se retrouve, donc on a dit, Mina, on se retrouve quand en direct
le
à la radio?
Le 28 février.
C'est bien, je
au
vois.
Au retour de mes vacances.
Je vois, avant que tu pars en vacances.
Ouais, dans ma deuxième maison.
Dans ta deuxième maison.
J'ai des vacances très loin.
Bon, dis donc, t'es de résidence secondaire.
Ouais.
C'est ça. Ok. Bon, ben, on vous souhaite une bonne soirée à tous et toutes.
Bonne
et donc,
soirée.
Et donc, on se retrouve le 28 février sur l'antenne de Principe Actif.
Au revoir.
On remercie Odile qui est venue nous écouter, effectivement, et qui sourit dans la moustache qu'elle n'a pas. À très bientôt et bonne soirée à tous.
Au revoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.